Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Saul Pandelakis autour de son livre La séquence Hartmann, paru aux éditions Gother. La rencontre est modérée par Gilles Jacinto à la librairie Terra Nova à Toulouse.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous sommes heureuses d'accueillir ce soir Saul Pandelakis, avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler. Et on est vraiment contents qu'il ait choisi d'être là ce soir pour nous présenter son travail d'écrivain. Et merci à Gilles Jacinto de modérer la rencontre. Voilà. Comme on demande pas le pass sanitaire, on vous demande par contre de garder les masques pendant toute la durée de la rencontre. Je crois que c'est tout. La rencontre est enregistrée, comme d'habitude, à la fin de la présentation. Il y aura un temps d'échange avec le public. Voilà, merci. Bonne rencontre.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre aujourd'hui à la librairie Terra Nova. Merci à la librairie. Écoutez, je suis extrêmement à la fois heureux et honoré de modérer, comme on dit, ou de, je sais pas, exciter cette rencontre avec Saul Pandelakis, qui vient donc présenter son roman de science-fiction queer, une fiction queer, pourrait-on dire d'ailleurs, on en discutera. Donc Saul, tu es illustrateur, tu es enseignant et chercheur à l'université du Mirail, auteur de fiction, et c'est ici ton premier roman, si je ne m'abuse, en tout cas publié. Tu enseignes le design à l'université du Mirail, on en reparlera lors de cette discussion, puisque ça fait partie des thèmes qui sont explorés dans ton ouvrage. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais nous dire peut-être pour te présenter toi-même à propos de tes expériences ou tes casquettes ou ton parcours qui ont marqué l'écriture de ce roman?
Pour commencer, que je suis assez content de publier un livre qui soit pas un livre de recherche, donc je devrais pas lire ça parce que j'aimerais aussi publier des livres de recherche et de théorie, mais ça faisait longtemps que je voulais écrire un truc. Il se trouve que ce truc et cette chose, ce petit pavé qui est présent ce soir, ça vient à un moment où je me suis enfin donné le droit d'écrire. Je pense que c'est pendant longtemps, j'ai pas osé. Enfin, ça vient aussi de la socialisation et de tout ce qui est associé au fait d'être assignée femme. Je pense que c'est y est pas étranger. Et puis, il y a un moment où le déclic s'est fait. Peut-être que je reparlerai de comment. Et puis, ça m'a permis de prendre une distance, mais salutaire, avec d'autres activités que tu mentionnais. Voilà, l'illustration, le design. Ça m'a emmené ailleurs, même si, en fait, on fait toujours les mêmes choses, qu'on les fasse par le dessin ou l'écriture. Au final, je ne me suis pas éloignée de mes centres d'intérêt. Je pense que ça raconte des choses sur le design, ça raconte des choses sur les corps queer, ça raconte des choses sur tout ce que je cherche par ailleurs. Mais je suis contente de proposer quelque chose qui, je l'espère, sera lu peut-être par un plus grand nombre que le public habituel de nos revues de recherche qu'on aime d'amour, mais qui sont moins lues. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Alors, c'est un roman. Je vais peut-être vous le présenter brièvement à partir de mon point de vue subjectif et singulier. qui, alors un point de vue, je suis ami de Saul, il faut le dire. J'ai eu la chance et le plaisir de le lire avant tout le monde, donc je me sens lecteur privilégié ce soir. Un lecteur particulier, je l'ai lu avec mon regard aussi parce qu'on est aussi collègues à l'université, avec mon regard forcément d'enseignant, de jeune chercheur, presque docteur. qu'est-ce que je racontais du coup ? C'est presque docteur, j'ai pensé à ma soutenance de la semaine prochaine, qui n'a rien à voir, ça m'a stressé. Excusez-moi, rien à voir. Le roman, donc un roman que j'ai trouvé absolument passionnant, je le dis en toute honnêteté, avec quelques peut-être petites réserves, mais on en discutera. Mais un superbe roman, passionnant, véritablement queer au sens où je l'entends. Ça fait partie de mes sujets de recherche, donc je l'ai regardé avec cette loupe aussi particulière, notamment dans la mise en dialogue de plein de tons, notamment dans la mise en dialogue de plein de points très différents. Saul a fait un pari un peu étrange, donc je le dis honnêtement, je déteste la science-fiction, a priori, ce qui était quand même osé de me proposer cette lecture. Et ben, j'ai adoré ce livre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, de la science-fiction queer, oui, passionnante, mais aussi une fiction queer, mais aussi un essai, désolé du coup d'aller à l'encontre de ce que tu disais, mais c'est aussi pour moi une forme d'ouvrage de recherche qui réfléchit sur le monde, sur les identités, sans jamais s'arrêter à un seul des angles qu'il explore. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, queer, science-fiction, c'est aussi un roman d'anticipation. C'est aussi un roman que j'ai trouvé extrêmement politique, non seulement parce qu'il joue le jeu de faire se rencontrer, dialoguer, confronter des points de vue parfois contradictoires, divers. On en parlait tout à l'heure au café. Tu t'es vraiment amusé, selon tes termes, à te mettre dans la peau d'un de personnage affreux, de méchants, six mecs blancs, terribles, mais qui ne sont pas si terribles que ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours extrêmement complexe. Pas compliqué, c'est pas un roman compliqué, mais c'est un roman complexe, passionnant. T'hésites pas à rentrer dans le pathos, t'hésites pas à nous faire de la tragédie. Il y a des passages romantiques, j'ai pleuré devant des scènes, voilà. Ça articule vraiment une interrogation sur notre monde aujourd'hui, sur le réel, tout en fabriquant cette fiction. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toutes ces parties et peut-être leur traduction dans ce qu'est la forme d'un roman, quelle forme prend le livre ?
Bah oui, et puis peut-être je vais essayer de donner un peu de contexte, même si je ne veux pas raconter l'histoire, parce que je pense que ça n'aurait pas grand intérêt. Si on raconte l'histoire, ça ne sert à rien de lire le livre. Mais au moins de donner un peu le contexte et où ça se situe. Donc tu disais que c'est une fiction d'anticipation, et en effet, ça décrit un futur qui est donc situé en 2130 à peu près. Et où deux personnages évoluent, donc une femme qui est un robot, même si les robots ne s'appellent pas des robots dans la fiction, ils s'appellent des bots, qui est une femme trans, et un homme trans lui aussi, mais qui lui est un humain, et qui est parti 20 ans plus tôt dans une expédition spatiale pour terraformer des planètes. Et donc tout le roman parle de ces deux personnages en miroir, avec une structure qui est assez mécanique, où on va entendre un personnage, puis l'autre. Enfin, je ne sais pas si la structure se voit, mais tout ça est assez organisé. Et puis, il y a des respirations dans cette histoire qui sont des interludes. Donc là, les étudiants riront parce que je les embête pour faire des interludes dans leur mémoire. Donc j'en ai fait dans mon propre roman. Voilà, je suis mes propres conseils. Et donc, il y a 5 interludes, si ma mémoire est bonne. J'hésite parce qu'il y en a eu plus à un moment donné, mais aujourd'hui, il y en a 5. Qui en fait sont des zooms sur d'autres personnages et d'autres moments de cette histoire, et qui sont en fait des moyens de tisser tout ce qui se passe entre, en gros, aujourd'hui 2020 et 2130, pour qu'on comprenne un peu comment on en est arrivé là. Et voilà ce qu'on peut dire. Après, les interludes sont assez différents dans leur ton et leurs attitudes. C'est qu'effectivement, on va suivre des personnages qui vont être beaucoup plus ouverts à de l'identification et de la projection, et par ailleurs, des interludes qui font le pari d'aller chercher des points de vue, pour le coup, assez loin de moi, de gens que politiquement je déteste, mais qui me semblaient intéressants de visiter, en fait, et qui me semblaient essentiels à raconter cette histoire, c'est-à-dire comment la population humaine s'est pas éteinte, mais est quand même en voie d'extinction, comment le réchauffement climatique affecte les milieux et les gens qui y vivent, mais aussi comment les bots sont apparus, dans quelles circonstances et pourquoi ils et elles sont ce qu'ils sont à ce moment-là de la narration. Et même des choses, des espèces de points de zoom sur des temps politiques ou sur l'exploration spatiale, comment elle est arrivée. Et tout ça permet de composer un puzzle finalement qui permet de mieux comprendre l'histoire des deux personnages.
Merci, tu disais ces interludes où tu prends le temps peut-être rebondir là-dessus, qui prennent le temps de nous donner une explication à travers un autre point de vue. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils sont des décrochages dans la narration, mais aussi des décrochages dans l'écriture elle-même. Donc le roman est écrit dans un style qui, je crois, est volontairement proche de l'oral de notre temps, proche aussi d'un certain milieu qui se traduit à travers des manières de parler, un vocabulaire, un rythme. Et en même temps, quand on rentre dans ces interludes, l'écriture se transforme, mais c'est pas seulement les prises de parole des personnages dans les dialogues, c'est aussi la forme de la narration elle-même qui devient une subjectivité autre. Comment tu l'as travaillé, ça, en termes de vraiment d'écriture?
Je pense que ça vient d'une expérience littéraire, mais qui est vieille, d'un livre que j'avais aimé à l'époque et que maintenant j'aime plus trop, qui est American Psycho de Bret Easton Ellis. Et si vous l'avez lu, vous vous rappelez qu'il y a des moments où on sort complètement du point de vue hyper intense d'être avec ce psycho killer là qui tue plein de gens, et c'est vraiment très pénible. Et effectivement, on a besoin de respirer à des moments. Et il y a des moments où Bret Easton Ellis s'arrête complètement et il fait des espèces de commentaires de textes. Donc il va commenter un album de Whitney Houston pendant 50 pages et il raconte pourquoi Whitney Houston, c'est formidable. Et j'avais adoré ce principe-là et je trouvais intéressant de créer ces sauts. Et après, dans le temps même de l'écriture, moi, ça a été essentiel parce que tout ce qui concerne les deux personnages, donc Asha et Rose, est assez complexe à mettre en œuvre parce qu'ils sont sur des temporalités différentes et en même temps, y a des points de connexion. Ça m'a demandé un travail bêtement de chronologie très, très compliqué et c'était difficile. Et donc, à certains moments, c'était chouette de se dire « Bon, ok, aujourd'hui, je prends une pause ». Et cette pause dans l'écriture, ça devient l'interlude et ça me permet, moi, d'aller chercher d'autres informations, de travailler mon univers, ce qu'on peut appeler le world building autrement, et après pour revenir à la narration qui nous intéresse vraiment et de ne pas s'épuiser. Donc aussi, ce n'est pas uniquement une stratégie littéraire, c'est juste bêtement une stratégie d'écriture au fond.
Ok. Et alors il y a beaucoup de personnages, des points de vue du coup qui se rencontrent, et ce que j'ai trouvé passionnant aussi, c'est qu'il y a plusieurs lecteurs possibles. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je n'aime pas la science-fiction. du coup, ce livre m'a plu, y compris ses parts de science-fiction. Comment tu as pensé ou pas ce lecteur, cette pluralité de lecteurs ou de points de vue portés sur le possible sur le roman?
À vrai dire, guère, parce que j'ai fait confiance à mon écriture, j'imagine. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais persuadée quand j'écrivais ce truc que, bien sûr, c'est un univers de science-fiction, mais qui parle de quelque chose. Il y a un sujet, il y a des personnages à qui il arrive des choses. Et un autre aspect qui a fait que je ne me suis pas trop inquiétée, c'est que ma première lectrice, comme toi, détestait la science-fiction. Et quand je lui ai donné les premières pages, j'avais écrit la moitié à peu près. Donc c'était un peu le crash test, où elle m'a dit « mais tu sais, j'ai vraiment horreur de ça ». Je lui ai dit « mais écoute, essaye ». Et à partir du moment où elle m'a dit « non, mais c'est bon, en fait, je suis rentrée dedans et en fait, ça se passe très bien », j'ai pris confiance par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des interrogations, notamment, il y a du code dans le livre. Et ça a été une grosse question parce que du code, j'en fais pas beaucoup. Enfin, j'en fais vraiment en mode oui, au pays du web, quoi. Donc, je code en HTML très peu de langage orienté objet. Et là, il fallait que j'imagine un truc qui serait le code d'une intelligence artificielle. Donc clairement, on n'est pas du tout sur la même chose. Et alors du coup, je me suis dit, il faut que j'écrive du code pour des gens qui n'en font pas. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit ridicule pour des gens qui en font. Donc ça a été difficile, mais c'est un pari. Et après, ce n'est pas le sujet principal. C'est-à-dire, pense que c'est aussi l'expérience d'avoir vu plein de films de science-fiction. Quand tu regardes, je sais pas, Star Trek, tu te fous de savoir comment le réplicateur fonctionne, en fait. Ce qui t'intéresse, c'est ce que les gens en font et comment ils évoluent. Donc, au fond, je me suis accrochée au personnage. Et les éléments science-fictionnels, c'est pas de la hard SF du tout. Voilà, j'ai un ami qui travaille dans l'aérospatial qui m'a donné trois conseils vite fait où je lui ai dit, bon, ça, globalement, ça te paraît aller. Il m'a dit, oui, oui, ça fonctionne. Après, j'ai fait deux, trois calculs savants de kilométrage et compagnie pour être sûr que ça soit pas complètement à l'ouest, mais c'est pas... voilà, c'est pas de la hard SF, vous n'allez pas apprendre des tas de choses sur les trous noirs, enfin, c'est pas du tout l'objet. Et au fond, c'est juste de se centrer plutôt sur les personnages et ce qui se passe, plutôt que vraiment essayer d'être sur l'aspect science. C'est plus fiction que science, en fait.
Et à propos de ces, justement de cette attention aux personnages, tu m'as dit quand à la première fois, le premier moment où on a échangé sur le roman, voilà, qu'il y avait cette question de comment articuler un peu à égalité le plus possible, en tout cas la question des systèmes, pour aller vers la question politique, la question de l'individu, de la psychologie, et la question du social, du collectif, que tu avais vraiment ce souhait de faire se rencontrer les trois, dans un roman qui s'attache à étudier des systèmes, à imaginer l'avenir de nos systèmes d'ailleurs, sans pour autant oublier cette partie, cette interaction avec le psychologique, les individus, et on rentre vraiment dans la vie de certains personnages de manière très très intime. Comment est-ce que cette articulation là tu la penses?
C'est-à-dire que la vigilance que j'ai eue, c'est de... Enfin, il y a beaucoup de personnages, vraiment beaucoup, mais parce que c'est un plaisir. J'adore créer des personnages, je trouve ça trop fun, donc j'en ai fait plein. Mais ça permet aussi de ne pas être sur un point de vue unique, et c'est aussi ce qui va permettre de ne pas avoir même un héros. Bon, moi, j'ai fait ma thèse sur les héros, donc je ne devrais pas dire ça, mais en fait, je ne supporte pas les héros, ça m'insupporte. Je suis très irritée de voir que dans la fiction, science-fiction, on revient sans cesse à des narrations type élu, ça m'insupporte, surtout que 9 fois sur 10, l'élu est comme par hasard un mec cis-hétéro blanc, etc. Donc, bon, sauf Dune qui est super, mais voilà. Mais enfin, dans certains cas, c'est très bien fait, donc ça passe. Mais globalement, j'étais assez lassée de ça. Donc l'idée, c'est de construire des personnages qui n'aient pas la réponse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vigilants sur ce qui leur arrive. Ils ont tous et toutes des points de vue politiques sur leur situation, là où ils sont, là où ils existent dans le monde. Mais aucun n'a la solution. Il y a, bon, parlons spoiler, mais il n'y en a pas un ou une qui sauve les autres. Et pour moi, c'était important de me dire, c'était presque un pari au début, de me dire, est-ce que je peux faire une histoire où finalement, il n'y a pas quelqu'un qui va renverser l'affreux système oppressif et c'est lui qui gagne et c'est lui qui a sauvé tout le monde? Parce que selon moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Puis ce n'est pas les vies qu'on mène, en fait. Et je ne vois pas ce que politiquement ça apporte de fabriquer ce genre de rôle, à part éventuellement suggérer qu'il nous faudrait un chef, ce qui est politiquement quelque chose qui ne me va pas non plus. Donc au final, j'ai fait pas mal de world building. Il y a même des moments où on est complètement dans l'exposé de ce qui est la politique de ce monde, mais à aucun moment il y a un personnage qui va venir avoir la solution. Le monde, il est là pour être habité, en fait. Voilà. Et les personnages, ils se déplacent dedans, ils se débrouillent, ils font de la merde, et voilà, ça se passe très mal, et c'est parce que c'est ça la vie, quoi.
Oui, je confirme. Et ils se posent tout un tas de questions ultra pertinentes, et on souffre avec eux autant qu'on rit et qu'on fait la fête souvent. Est-ce que tu veux nous en présenter peut-être un ou deux de ces personnages, ou trois? Peut-être pour nous parler de comment tu les as construits et aussi de cette idée de corps identité, de queer, trans, comment tu as voulu aborder ces questions-là?
Alors, ça paraît évident de présenter au moins les deux personnages principaux, parce que même s'il n'y a pas de héros, il y a quand même des personnages principaux. Donc, il y a Rose, qui est un développeur informatique spécialiste en intelligence artificielle et qui est donc embarqué sur une mission de terraformation dans un vaisseau qui s'appelle Arimée, et qui est quelqu'un de très taciturne et replié sur lui-même, et qui, en fait, là je le spoil pas en le disant, est quand même dans une bonne dépression quand le roman commence, et qui est dans une forme d'isolement, une difficulté à établir des contacts sociaux, et à plus forte raison qu'ils sont 16 sur le vaisseau, donc il n'y a pas non plus pléthore de contacts possibles. Ça, c'est un personnage que moi, j'aime beaucoup, qui plaît souvent moins, on en a parlé tout à l'heure, il recueille souvent moins d'adhésion, mais j'ai une tendresse immense pour ce personnage, parce qu'en plus, comme tous les personnages, il va bouger, il va pas rester dans son marasme. Et après, évidemment, il faut parler de Asha, qui, elle, est une botte incarnée depuis pas très longtemps, elle a une expérience qui dépasse pas la dizaine d'années. Alors oui, pour préciser sur ce vocabulaire-là, oui, parce que je suis dans ma tête, voilà. Le roman repose sur l'idée qu'à un moment donné, des intelligences artificielles extrêmement perfectionnées ont émergé dans un monde où il existait par ailleurs des poupées anthropomorphes pour le sexe, donc des sexbots, sujet qui m'intéresse beaucoup. Sur lequel je fais aussi des recherches par ailleurs. Et profitant de ces corps disponibles, les intelligences artificielles ont réclamé d'avoir des corps et se sont donc incarnés. Et Asha, elle fait déjà partie d'une longue tradition de ces corps incarnés. La première génération était en fait des robots servants, c'est-à-dire des gens qu'on a incarnés pour faire la vaisselle et s'occuper des petits vieux dans les EHPAD, en gros. Suite à ça, les robots se sont rebellés, ou en tout cas se sont politisés et constitués en groupes pour défendre leurs intérêts, et se sont donc autonomisés. Et elle naît ou elle apparaît à un moment où l'autonomie est déjà accomplie. Donc il y a déjà des luttes qui sont remportées. Mais en même temps, c'est une botte trans, donc elle a une expérience de femme botte trans. Elle est chercheuse, philosophe, et son obsession, c'est d'essayer de penser sa condition dans un monde où finalement il y a des postures extrêmement radicales et pas très intelligentes, c'est-à-dire soit des gens qui rejettent les bottes au prétexte que ce sont des créatures artificielles, ou au contraire des bottes qui pensent que l'expérience botte est ultime et c'est ça absolument qu'il faut vivre et les humains sont inférieurs, ou au contraire des humains qui pensent que les bottes sont des nouveaux dieux et c'est eux qui ont toutes les clés, enfin en gros toutes ces positions très très dogmatiques, et elle se bat avec tout ça. Et puis tu m'as dit 2-3 personnages, donc je vais en présenter un troisième. Mais non, mais parce qu'on en parlait juste avant de venir et je me suis souvenu à quel point je l'aimais beaucoup. Il y a le personnage de Zahir qui en fait est le meilleur ami de Asha, qui lui est un humain, qui est un homme gay, iranien, et qui pour le coup est socialement tout en bas de l'échelle. Ce qui est très compliqué dans sa relation avec Asha, parce que Asha, elle a beaucoup de privilèges, notamment du fait d'être botte. J'explique que les bottes ont une position sociale qui est plus avantageuse, même si ce n'était pas gagné au départ. Et du coup, ça crée des frictions incroyables avec ce personnage qui, lui, est politisé, mais le paye extrêmement cher et paye son militantisme au prix fort. Voilà. Et il y en a plein d'autres, je pourrais en parler toute la soirée, mais on ne va peut-être pas faire uniquement la galerie de personnages. Mais tous ces personnages bougent, j'insiste sur ça. Peut-être que ponctuellement j'ai échoué, mais j'ai l'impression que tous vivent une transformation. Et ça, je trouve que c'est un truc de contrat entre l'écrivain, l'auteur, l'autrice et ses personnages. C'est de faire quelque chose avec le personnage, quoi, de ne pas le laisser dans sa fange, quoi, ou au moins qu'il change de fange à la rigueur, mais qu'il y ait un trajet, quoi.
Oui, et c'est quelque chose qui m'a marqué aussi beaucoup. On parlait de cette question des clichés aussi quand on a eu la première discussion. Et tu disais, voilà, la question, c'est comment mettre en scène du cliché, en faire quelque chose, que ces personnages se transforment. Et ce que, personnellement, j'ai trouvé vraiment super bien fait dans le roman, c'est d'être dans cette idée de la représentation. Et de se dire, voilà, on va représenter tout un tas d'identités différentes, de vécus différents, de classes sociales, d'âge. Alors la question de l'âge, en plus, est traitée à travers le croisement des temporalités, hein, puisque le temps sur le vaisseau, donc le temps du monde de Rose, pour faire simple, par rapport au monde d'Asha, n'est pas le même. Donc les gens, quand ils ont possibilité de communiquer d'un monde à l'autre, c'est forcément affecté par le fait que ce n'est pas le même temps qui a passé pour chacun des deux, ce qui pose des questions sur plein de choses, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations tout court, et qui est extrêmement intéressant. Et du coup, vraiment, fiction queer, science-fiction queer, la partie queer affecte vraiment la forme du roman, la pensée, justement les transformations des personnages, les remises en question, les transformations un peu des représentations oui, épistémologiques et pas juste voilà, cette représentativité sous forme de quota. Et c'est intéressant parce que le roman pose cette question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se pose cette question-là hein, sur la construction de l'équipe à l'époque sur le vaisseau, qui est une équipe fondée sur des quotas à une certaine époque. Et tu en montres bien à la fois et les limites et l'intérêt en fait politique en termes de représentativité.
Bah, ce que tu dis est intéressant parce que je pense que ça, même si je l'ai pas forcément conscientisé quand je l'ai écrit, c'est aussi un petit commentaire sur l'université d'aujourd'hui où en gros on a l'impression, enfin voilà, on en parlait maintes fois, mais où il y a des personnes minorisées qui accèdent à des fonctions de direction, et on se dit ah, mais c'est super, des personnes minorisées accèdent à des fonctions de direction. Et en fait, c'est pas le signe que le monde va mieux, c'est juste le signe que la fonction est dégradée en fait. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans ce monde-là, la mission qu'on suit est en fait la quatrième et la cinquième, et en fait, ça n'intéresse plus personne. On a compris que la terraformation, ça allait pas se faire, que Terraformation. Ah oui, mais tout le monde sait ce que c'est la terraformation. Oui, tu vois, il y a des lecteurs, des lectrices de science-fiction. Mais on en parle aussi aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet. On a des gens qui trouvent que c'est une idée intéressante de dépenser des millions de dollars pour faire ça. Du coup, il y a ce truc où bah, c'est plus trop un sujet. Et en fait, au moment, comme c'est plus tellement un sujet, que c'est plus héroïque, que ça intéresse plus grand monde, bah, là, d'un coup, on dit ah, bah là, on va. Oui, en fait, on va avoir une équipe égalitaire. Bon, c'est aussi parce qu'il y a eu un échec d'une mission précédente, ça je peux le dire sans spoiler. Il y a eu un gros accident où les gens se sont en gros entretués. Ils se disent, bon, il va falloir qu'on constitue des équipes autrement. Et ils imaginent une espèce d'équipe qui aurait un fonctionnement quasi anarchiste, beaucoup plus horizontal. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de dire, OK, ils ont un fonctionnement a priori anarchiste, mais qui en fait n'empêche pas du tout qu'il y ait des tas de rapports de pouvoir qui se manifestent, que ça débloque complètement en termes de déséquilibre dans le travail, que en fait bah, ce groupe est très dysfonctionnel, mais comme tout groupe humain en fait. Et ça m'a voilà, j'ai trouvé ça intéressant de parler de cet aspect-là.
Alors tant que tu dis beaucoup sans spoiler, petit conseil, ou je sais pas, mais en tout cas quand j'ai lu la quatrième de couverture après l'avoir lu, je me suis dit qu'il y avait des choses qui étaient dites que j'aurais pas eu envie de savoir en le lisant. Donc faites confiance, foncez dans le bouquin et la quatrième à la fin. En tout cas, ce qui a constitué une énorme surprise pour moi est écrit derrière, parce que j'étais voilà. En colère contre toi, Saul, d'avoir laissé faire ça. Mais rentrer dedans en toute confiance sans aller lire derrière, c'est mieux. On parle des relations humains-bots. Je vous propose que, après ces considérations un peu générales, on prenne plein de petits extraits. C'est un roman qui est rempli de micro-détails hyper passionnants. On peut disserter des heures et des semaines et se poser des questions pour une phrase parfois. Ça a été mon cas. Saul, est-ce que tu accepterais, mais sinon je ne le fais pas, qu'on prenne chacun une voix de ce dialogue? C'est un dialogue entre une intelligence artificielle et un humain, page 124.
Je n'étais pas du tout préparée à ça.
Tu as le droit de dire non, parce que je peux faire deux personnages.
C'est 124?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Top. Tu IA ou HU?
Non, vas-y, fais l'IA.
Déjà, je ne veux pas avoir l'air coincé, mais il est un peu tard pour être debout, non? Vous ne devriez pas dormir.
Ouais, dis donc, qu'est-ce que tu deviens, papa poule? Blague à part, c'est pas la première fois que je me fais un binge nocturne, même si techniquement, je n'ai regardé aucun de ces médias, donc je sais pas si ça mérite le terme de binge.
Ce n'est pas seulement votre insomnie qui me fait dire ça. Globalement, vous manquez d'enthousiasme.
Ah, je vois, c'est parce que j'ai séché le dîner. Je sais pas comment expliquer ça à une intelligence artificielle, surtout une intelligence aussi bavarde que toi.
On dit orienter conversation.
Si tu veux, mais moi je suis un humain, qui plus est, un humain qui n'aime pas les gens. Et des fois je me sens mieux dans mon coin. Je ressens pas le besoin de me forcer. Je trouve ça pas juste, tu vois. Partager la compagnie de personnes et savoir soi-même qu'on ne l'apprécie pas. Et imposer ça à des gens à leur insu.
Pour quelqu'un qui n'aime pas les gens, leur avis vous importe beaucoup.
J'aime bien les personnes, individuellement, mais dès que t'as plusieurs personnes, ça devient un truc que je n'aime pas trop. Ça devient les gens. C'est ça que je veux dire.
Pourtant, je vous trouve assez à l'aise dans le collectif.
Je fais illusion. Je me fiche assez de ce que les gens pensent pour être sincère dans mes interactions. Et ça, ça doit donner l'impression que je suis à l'aise.
Je vois.
Je vois. On dirait presque un bot de thérapie, là.
Ah, vous savez, Rose, ça c'est une chose qui est difficile. En tant qu'IA, je suis sans cesse obligée de démontrer ma sophistication. Si je donne des interactions trop simples, les gens sont déçus. Et ne me sollicitent plus, ou alors, vraiment comme un servant. Mais vous, ça vous arrive bien de juste répondre, d'acquiescer seulement à ce qu'on vous dit.
Intéressant. Et du coup, désolé. On passe notre temps à se charrier, je sais bien que t'es évolué. Plus que moi, d'une certaine manière. Et je suis surpris d'entendre que les gens se basent sur une seule interaction pour t'invalider. Ça paraît excessif.
Je ne pense pas que ce soit conscient. Mon avis est que les humains attendent, sans le savoir, quelque chose d'immense de la part des machines. Quelque chose que nous ne pouvons pas donner. D'une certaine manière, nous sommes condamnés à être décevants. Un peu comme la nourriture sur ce vaisseau, on dirait. Rien ne vous tente ? Au fil de la conversation, Rose a gagné les placards à épicerie de la zone commune, des petits casiers individuels contenant dans une bannette les snacks qui leur conviennent. Le contenu des bannettes n'est jamais immensément réjouissant, mais là c'est encore un cran en dessous. Une pomme naine, toujours de la même récolte visiblement. Quelques barres aux amandes, sous vide. Un petit pack de jus d'orge, parfumé cacao. Quelques carottes cultivées sur place. Le tout orienté vers une consommation de protéines plus élevée, en remplacement des sucreries sur lesquelles Rose a tendance à se porter. Il embarque les carottes et les barres croustillantes, tout en attaquant la pomme d'un franc coup de dent.
Alex, je te le dis pas souvent, mais j'aime bien nos conversations. Surtout un soir comme ce soir. Je n'attends pas que tu sois humain. J'apprécie que tu ne le sois pas.
Dans votre bouche, je sais que c'est un compliment. Rose achète le snack dans son bunk, sans même prétendre s'occuper des emballages. On verra demain.
Un truc qui me turlupine, Alex, c'est que tu sois tout le temps là, partout d'une certaine manière. Peut-être que c'est ça qui conditionne toutes tes interactions.
Alors pour se faire aimer, il faut se faire rare ?
Ouais, c'est un peu ça. Les gens aiment bien se sentir spéciaux, uniques. C'est un truc d'humain.
Vous dites souvent ça.
Quoi donc ?
Un truc d'humain, comme si vous ne faisiez pas vraiment partie de ce groupe.
Si, si, je fais partie du troupeau, mais à reculons, tu as raison. Mais regarde, là par exemple, tu as d'autres conversations que celle-ci.
Non, pas présentement, même si...
Tu pourrais pas me le dire si t'en avais, je sais, je sais.
Mais du coup, vous vous sentez un peu spécial, avouez.
Ouais, crois-le ou non, Alex, je te considère comme un ami.
Je suis touché. Rose laisse l'échange retomber, les yeux fixés au plafond, la bouche amère de chocolat noir. Il va falloir se décider à dormir.
Ah, et pitié, pour le réveil, change-moi ces perdreaux de l'enfer pour un truc plus neutre.
Un bip-bip ?
Non, en fait, je m'en fous. Surprends-moi.
Alors j'ai choisi ce passage parce qu'on sent bien hein, que dans chaque phrase, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans chaque échange. Dans ce rapport humain, humain-bot, ce qui m'a le plus intéressé, c'était ton approche du corps et de cette question justement de l'incarnation, d'un corps qu'on fabrique pas, des allers-retours qui vraiment remettent en question très profondément nos a priori sur le vivant, le mort, le charnel, le non-charnel, l'objet, le non-objet. Alors on retrouve beaucoup de tes marottes hein, dans le livre, l'objet et son usage, ai-je dit tout à l'heure au café et en vérifiant que c'était les bons termes pour parler de design. Peut-être tu... Ma question est imprécise, mais c'est un sujet voilà, ce rapport des corps et cette transformation très queer du regard sur les corps, leur fabrication, leur perception, leur sensation par les autres, en soi, qui remet en question beaucoup de choses.
Oui, forcément, ça a été un enjeu du livre. Alors, pareil, moi, c'est pas un roman à thèse, quoi. Je me suis pas dit, je vais écrire un roman pour parler de ça. C'est juste, j'ai écrit le roman et après, je me dis, oui, vraiment, ça travaille toutes ces questions, en effet. Mais la question du corps, oui, ça fait vraiment partie de trucs qui m'obsèdent depuis la thèse et même avant. Et surtout, comment on fabrique un corps. Et Je pense que ce que montrent les bottes, alors ces bottes au fond sont des corps fabriqués, artificiels, mais la manière dont ils vont s'éditer ou ce qu'ils font à leur corps ou comment ils décident d'exister est en fait extrêmement proche de ce qu'on vit nous. Donc au fond, enfin, c'est pas dit jamais dans le roman, mais ce qui est montré, c'est que le rapport à l'édition de son propre corps est en fait une constante, qu'on soit humain ou qu'on soit bottes. Et bien sûr, ça parle de l'expérience trans qui est aussi la mienne. C'est-à-dire que ce roman, il m'a accompagnée pendant une période de vie où c'était un sujet pour moi. Et l'idée de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit de faire, de ne pas faire, comment c'est perçu socialement, tout ça était hyper brûlant. Et c'est aussi pour ça qu'à aucun moment, il a été question que les deux personnages soient cis. C'était impossible parce qu'il fallait qu'ils aient chacun et chacune de leur manière ce rapport là à leur corps. Et après, concernant les objets, bah oui, ça vient du design. Moi, je suis incapable de parler de corps sans parler des environnements dans lesquels ils évoluent, parce que c'est les environnements qui fabriquent les corps. Enfin, moi, ça, c'est une idée à laquelle je crois beaucoup. Et c'est surtout sensible peut-être dans le design du vaisseau, où pour le coup là j'ai passé beaucoup de temps à imaginer comment ce serait fait, quelle serait l'architecture de ce vaisseau, qui l'a conçu. Pareil, c'était impensable de dire il y a un vaisseau, il est comme ça. Non, il y a un vaisseau, il a un auteur ou une autrice, quelqu'un l'a conçu. Et ça va déterminer les expériences. Je sais où tu vas avec ton livre, mais voilà. Ça va forcément déterminer la manière dont les gens font l'expérience de ce vaisseau, mais pas que. Enfin, l'appartement d'achat est extrêmement important dans la narration. Il y a d'autres appartements. Enfin, je suis obsédée par les espaces domestiques, donc il y en a plein. Il y a une vraie galerie d'espaces domestiques dans le roman. Voilà, tout ça est cohérent à cet égard, du coup.
Ok. Bon, l'auteur, l'architecte, je ne peux que rebondir en changeant mon programme. On lit ce petit bout. Alors, page 496, on est à une conférence de presse. Est-ce que tu es d'accord pour...
Non, je fais qui ?
Tu fais la présentation, là, du début. Enfin, le... Puis moi, forcément, je fais « Señor Doctor Arnaldo Justo Cruzeiro ».
Montre-moi où tu veux que je démarre. Parce
496 que... oui, mais pour cette nouvelle mission.
Ah. Pour cette nouvelle mission, nous nous sommes associés à un très grand nom de l'architecture. C'est un honneur pour l'IRGI de collaborer avec un grand monsieur comme Signor Dottor Arnaldo Justo Cruzeiro. Une carte blanche quasi totale lui a été donnée pour repenser ce qu'est un vaisseau d'exploration spatiale. Et sur l'écran, vous pouvez voir l'apparence externe d'Arimé.
C'est d'abord un logo minimal qui s'affiche, une sorte de coquille qui, au deuxième regard, configure l'esquisse d'une pupille. La forme générale du vaisseau est très stylisée. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est ce premier mot qui lui est venu. Comme sur Arimé, était d'abord un dessin, avant d'être un vaisseau ayant la capacité de s'élever et de trouer le ciel. L'ensemble donne l'impression d'être oblong, comme une fente horizontale. Chaque extrémité est couronnée d'un dôme, lui-même serti de formes circulaires supplémentaires, à leur tour couronnée de longs tubes serpentins que Kelly identifie, vu l'échelle, comme de possibles couloirs. Un zoom brutal vient justement s'approcher comme une guêpe curieuse du premier dôme. Justo Cruzeiro s'avance et prend la parole, ce qui, vu le regard de l'assistante, ne semble pas tout à fait prévu. Il fait partie de ces gens qui n'essaient pas d'avoir un accent correct dans les langues apprises.
Merci, on est là. Arimé,
la simple évocation du nom semble l'avoir emporté dans une divagation secrète. Il habille son visage d'une main songeuse, en soutien, puis reste la bouche entrouverte, le temps de chercher la suite.
Arimé, c'est l'architecture réconciliée avec l'espace. Voilà, c'est cela qui a été notre but. Et je crois que nous y sommes parvenus.
Est-il possible que ce théorème flou constitue l'acmé de la visite ? Justo Cruzeiro opine du chef, fait signe à l'assistante de passer à la suite de la présentation. Le point de vue s'approche dangereusement du premier dôme, en perce la coquille.
Ici, la première agora, ce mot importe. Le premier travail de l'architecture, ce sont les mots, car ce sont les mots qui façonnent les idées.
Le crayon de bois reste suspendu au-dessus du carnet de Kelly, travaillant un vide inquiet. A-t-elle tant angoissé pour cela ? Un rappel médiocre des principes de base de la linguistique ? Les stagiaires contemplent le maître et secouent la tête comme les petits chats en plastique qu'on trouve dans certains restaurants japonais. Pour ne pas rester sans rien faire, elle note « chat en plastique, resto JBS ». Elle lève les yeux et voit qu'Yves note frénétiquement des phrases sur son propre carnet. Mais quoi ? Quelle révélation vient donc de lui être faite ? Perçoit-il quelque chose qu'elle ne voit pas ?
L'agora est le lieu de la rencontre. Elle tient son nom de cet héritage grec que cette troisième mission emporte avec elle. Vous savez que cette mission n'aura pas de chef attitré. Alors le vaisseau doit façonner cette horizontalité. Quoi de mieux, je vous le demande, qu'une place publique au cœur du vaisseau. Ici, on se rencontrera. Ici, on devisera. À nouveau, une pause contenue. On philosophera, peut-être. Est-ce que vous voyez, ce que vous voyez ici n'est que la première agora, l'agora est. Sa sœur jumelle, comme une vestale patiente, la regarde de l'autre côté, cerclée des jardins. Un zoom dézoom brutal les projette dans la deuxième place, ronde comme la première. Le rendu exhibe de grandes plantes sauvages derrière des vitres rosées. Peut-être des bananiers. Elle note. Bananier égale possible espace. Juste Cruzeiro reprend, mais semble tout à coup hurler, inspiré par ses propres mots. Deux agora, deux places, deux poumons qui se regardent et se font face. L'une d'elles coiffée du poste de pilotage, comme une femme domptée par les nécessités de la navigation. L'autre ouvert à une poésie toute renaissante. C'est la poésie du giardino italiano. Synthèse maniériste qui dépasse dualité stérile entre jardins anglais et français. C'est dans « giardino », mot qu'il s'est appliqué à bien prononcer, en étouffant le premier « i », que son accent de Rio siffle le plus. Kelly regarde à gauche, à droite. Quelqu'un pourrait à tout moment se lever, éclater de rire, mais rien ne se passe. Rien ne se passe, alors que tout devrait exploser. Malgré elle, elle remarque que Juste Cruzeiro a du ventre. La benenne tend sa chemise à fines rayures, posée par-dessus la ceinture d'un pantalon à pince camel. Kelly remarque que le pantalon est trop petit, surtout à l'endroit de la braguette qui semble elle aussi tendue par le paquet viril. L'effet s'accentue quand Juste Cruzeiro tente un demi-assis sur un des tabourets, style bar, qui entoure l'écran. Il ouvre la bouche, projette la main et habite encore une pause réflexive. Puis, cette horizontalité, nous avons voulu qu'elle soit une expérience. C'est un flâneur d'un nouveau genre qui s'invite ici et qui, avec lui, amène une nouvelle idée du collectif, ou plus précisément des collectifs. Car l'idée des deux agora consiste bien à créer des monades dans cet organisme monobloc qu'est l'équipage. Un énième dézoom annonce la suite. Un immense bloc allongé unit les deux agora. C'est là que le rendu 3D les amène. Sur un bateau, traditionnellement, historiquement, la proue est à l'avant. Mais là encore, ce serait reprendre ces structures pyramidales anciennes dont nous ne voulons plus pour les missions. Kelly remarque qu'elle a commencé à dessiner sur le carnet une espèce de tresse à hachures. Elle se redresse un peu, note. Nous n'en voulons plus. Par-dessus le végétal suggéré. Juste Cruzeiro est sorti de son assise, il vient gesticuler autour de l'écran. Ici, pour réunir nos agora, l'épidorse. La proue fait chemin, la proue latéralisée. C'est ici qu'on voit le mieux l'espace pour les promeneurs. Mais l'épidorse se mérite. Il est plus rare, il est un contrepoint aux vis ordinaires qui se déploient à l'est et à l'ouest.
Mais si j'en crois à l'échelle du plan, ce sera vraiment une très longue distance à parcourir pour les membres de l'équipage. Et ce, plusieurs fois par jour ?
Juste Cruzeiro répond en se massant les maxillaires. Non, pas plusieurs fois. Une fois ou plus pour accéder au repas. Mais du reste, l'épidorse se traverse. Sa longueur et son revêtement y invitent. Nous avons choisi une résine phénolique pour le sol permettant à tout membre d'équipage qui le souhaite d'utiliser un gyropode pour traverser l'épidorse en un clin d'œil.
Allez.
Voilà, donc un passage que j'ai trouvé extrêmement drôle, où je me suis beaucoup, beaucoup amusé et qui à la fois porte un regard un petit peu cynique, ironique sur cette manière de penser l'espace, les objets en fonction de considérations politiques et en même temps, voilà, est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné sur ce vaisseau? Comment tu traites cette question-là?
Alors, sans trop en révéler, il n'y a pas de méchant dans ce personnage. Il n'y a aucun personnage qui est absolument entièrement mauvais. Ça m'a semblé aussi important. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des personnes intégralement mauvaises. Enfin, bon, ça se discute, mais ça ne me semble pas... Voilà, ça me semblait pas intéressant, de toute façon, dans un livre, de poser quelqu'un qui soit un méchant complet. Et en fait, donc ce personnage est un peu la synthèse de tous les insupportables professeurs d'architecture que j'ai rencontrés dans ma vie, pour le dire très clairement, ou même designer pénible. Mais il n'échoue pas complètement, ce qu'on m'a fait remarquer, enfin mes lecteurs et lectrices m'ont dit, mais il est insupportable et il s'écoute parler et il dit plein de choses qui sont vraiment de l'ordre de, oui, de la masturbation intellectuelle, on pourrait dire. Et en même temps, il n'échoue pas complètement, puisque on découvre ce passage finalement assez tardivement et on se rend compte que certaines des choses qu'il a nommées, alors il y a des choses qu'il a nommées qui ne se produisent pas du tout, et c'est censé être assez drôle, puisqu'on se dit, bah, entre l'intention de l'architecte et ce qui se passe réellement, il y a quand même un monde. Et en même temps, ce n'est pas un échec complet, puisque les gens vivent bien dans ce lieu et l'habitent, sans doute pas de la manière dont ils l'avaient imaginé, mais ça se produit. Après, tous les personnages ne sont pas insupportables, hein, je tiens à le dire. On passe aussi de bons moments.
Oui, il y en a des formidables. Et tiens, regarde, un petit échange humain, bot, mignon, entre Acha et Zahir. 205. Mec, je te reprocherai jamais de ne pas utiliser ce truc.
Je dis pas que tu me le reproches frontalement. Juste, je sais que tu penses que j'aurais pu et même dû faire tout ça.
Et alors, si je l'ai pensé? Je sais que tes options sont réduites, Zahir. Et on sait très bien pourquoi elles le sont.
Parce que je joue pas le jeu?
Non, parce que le jeu craint. Parce que le monde dans lequel on vit craint. Après, je sais pas quoi te dire. D'une certaine manière, faire le choix du confort une seule fois, de l'autopréservation, est-ce que c'est ça qui va annuler ton engagement dans la lutte? Il la rejoint sur les couvertures un peu à distance.
Tu dis ça parce que t'as dû venir me chercher?
Non, tu sais, j'y retournerai s'il le fallait. J'y retournerai mille fois. C'est que parfois j'ai l'impression que tu fais comme si j'ignorais mes privilèges. Alors que je sais, et tu sais que je sais. Du moins j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça entre nous.
Mais connaître ses privilèges, tu crois que ça excuse tout? Il suffit de reconnaître son avantage social et c'est plié?
Il a haussé le ton. Acha essaie de ne pas faire de même, mais après tout, pourquoi devrait-elle rester calme? Non, Zahir, c'est pas plié, mais fut un temps où tu me faisais confiance là-dessus. Aujourd'hui, c'est comme si je devais me justifier en permanence.
J'ai l'impression d'entendre Clélia.
Voilà, ça c'est un dialogue qui m'a marqué. C'est cette question de la caricature dans les débats politiques, de comment on se positionne, de à quel moment on fait quel compromis et pourquoi, qui me semble traverse tout le roman. Y compris, on l'a dit, dans la forme, dans les grandes questions que ça pose. Tu disais toi-même, voilà, personne n'est gentil, n'est méchant. Y a des intentions, il y a des choix conscients, inconscients. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce débat-là?
Bah, je pense qu'à l'origine de ce débat, il y a la volonté de parler des tensions politiques entre amis, c'est-à-dire de la manière dont, quand on n'est pas situé au même point social entre amis, ça crée inévitablement des points de friction. Et surtout, dans ce débat-là, moi, je suis catastrophée pour eux deux, en fait, parce que je vois bien qu'ils ne trouvent pas d'issue à leur conflit politique, qui est d'une certaine manière insoluble, parce que Zahir est pauvre et activiste et voué à se faire arrêter encore et encore par une police qui, en plus, s'est privatisée, ce qui est un des points du roman. Et Acha, qui fait absolument tout ce qu'elle peut pour l'aider, mais le fait qu'elle se retrouve en permanence dans une position d'aidante n'est pas bon non plus. Ce n'est pas une vraie position d'allié. Et puis elle-même est fatiguée d'engagements politiques précédents et ne sait plus comment s'engager. En fait, il y a le sujet politique qui m'importe, mais en fait, au-delà de ça, et il y a beaucoup de passages dans le roman qui viennent sur ça, c'est comment on s'engueule entre amis et comment bien s'engueuler entre amis. Et comment on fait pour s'engueuler et que ça ne menace pas l'amitié et de parvenir à maintenir ce lien. Et en l'occurrence, s'il y a éventuellement à théoriser là-dessus, la relation d'Acha et Zahir parle de ça, en fait, et parle de ma propre histoire avec des amis. C'est-à-dire quand on traverse un point de tension, mais qui souvent est contextuel, qui ne vient pas des gens, d'une faute horrible. Parce que ça, on voit beaucoup ça au cinéma, dans les séries. C'est-à-dire, les gens s'engueulent parce qu'il y en a un qui a merdé. Mais en fait, pour qu'il y ait une tension amicale, il n'y a pas besoin que quelqu'un merde, en fait. Il suffit que le monde soit le monde et les tensions sont créées parce que certains s'élèvent socialement, d'autres ne s'élèvent pas ou tombent, ou tout simplement, le monde est infernal et c'est ça qui crée la dissension. Et je ne révèle pas ce qui se passe à la fin, mais un des sujets de ce livre, c'est comment ils peuvent rester amis. Et c'est le sujet d'Acha, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui commence le roman en étant très connecté, en ayant une vie sociale très riche, et qui, d'un seul coup, va se prendre en pleine poire le fait, à un moment, de l'être moins. Et entre autres, parce qu'elle est mise face au fait qu'elle peut perdre son ami, mais pas suite à une immense crise où on se jette des assiettes à la figure, juste parce que ça ne fonctionne plus.
Vers la fin du livre, il se dit ça sur Acha. Ouais, j'ai bien bossé, t'as vu. Hop, écho. Elle a envie de lui dire qu'elle est heureuse que des lois existent encore. Que sans les lois, elle serait peut-être morte, étouffée sous ses process enkystés. Sans les lois, ce centre ne serait jamais sorti de terre. Elle entend presque Zahir lui répondre en écho « Ce n'est pas parce que les lois nous aident qu'il faut sombrer dans le solutionnisme et légaliste. » Cela aussi, elle le sait. Voilà, et ce petit passage qui montre un peu, je trouve, cette interrogation, en fait, qui traverse vraiment tout le livre. Alors, tu as dit, voilà, le monde est monde, presque un sous-titre, peut-être. Comment bien s'engueuler entre amis pour... On est là aussi pour vendre, hein, c'est ça, Lisa. À propos de vendre l'argent. Alors, c'est intéressant, c'est que l'hypothèse du livre... Ouais, cette transition. Elle n'était pas préparée, celle-là. C'est le modèle de société dans laquelle on se retrouve et qui donne lieu à cette recherche de possibilités de terraformation. C'est un peu la suite de notre monde, clairement, d'aujourd'hui et de l'analyse que tu en fais. C'est un monde dans lequel le climat, tout est catastrophique, et notamment il y a une réduction. On peut le dire quand même. Il y a des moments où on rit, on pleure et on angoisse aussi un petit peu parfois, mais rien de négatif. On adore vivre des tas de trucs. Et dans ce monde-là, en fait, le capitalisme a muté sans vraiment muter. Il a muté sur un point clé, s'il faut en retenir certains, c'est qu'il n'y a plus d'argent et à la place, il y a des points, ce qui est parfaitement angoissant tout au long du roman. Hein. On paye en points et on gagne des points sociaux, mais aussi et surtout des points environnementaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dépense quelque chose qui n'est pas bon du point de vue de l'écologie, on perd des points et on peut éventuellement en gagner. Évidemment, tout ce système qui pourrait être mignon, je ne sais pas, d'un certain point de vue, qui ne serait pas le mien, mais en tout cas, admettons, tout ce système est complètement récupéré par des classes sociales, par des inégalités, des injustices. C'est absolument déprimant, évidemment. On n'a pas envie d'y aller. En tout cas, pas moi. Et donc ça, c'est un premier point. Il y a plus d'argent. Et à la place, il y a des points. Et l'autre chose, c'est que le monde, en fait, se rétrécit progressivement puisque la Terre n'est plus habitable partout. Et donc, se créent des systèmes de valeurs de territoire en fonction de leur habitabilité même. Et on est dans un monde où la race humaine, si on peut l'appeler comme ça, décroît, alors que la race des bots, je ne sais pas comment dire tout ça, finalement croît et surtout a acquis une reconnaissance sociale, est intégrée finalement dans la société. Il y a des lois qui les protègent. Est-ce que tu peux nous parler de cet avenir et du coup peut-être du présent ?
Alors c'est pas tout à fait vrai que l'argent disparaît. Enfin, on l'a dit tout à l'heure quand on discutait avant de venir, mais disons que l'argent devient obsolète et en tout cas n'est plus la valeur principale. Il existe encore, ce qui est formidable parce que ça permet d'avoir un alibi en disant mais si, regardez, on peut payer en argent. Sauf qu'en fait, la valeur du point est quasiment plus importante. Et il y a l'idée de... Bah, on peut payer dans les deux, avec ces deux valeurs, mais en réalité, les gens qui sont pauvres seront pauvres dans les deux valeurs. Enfin, ça ne renouvelle absolument pas les perspectives d'émancipation pour les gens qui seraient les plus défavorisés économiquement. Et ça, c'est peut-être le seul point thèse, on va dire, de ce roman, parce que c'est un truc dont je suis convaincue, c'est que le capitalisme va nous faire le coup de supprimer l'argent. C'est une obsession. Enfin, je suis obsédée par les caisses automatiques, le paiement sans contact. Je trouve qu'il y a un truc qui se prépare et qui est absolument immonde, puisque derrière une fluidification des échanges économiques, il y a en réalité tout un autre système qui est en train de se mettre en place et on est en train de le voir. On vous dit « Ah, mais c'est super, vous allez pouvoir payer avec votre téléphone », mais ce qui veut aussi dire que si vous n'avez pas de téléphone, vous ne pourrez pas payer, en fait. Donc, c'est quand même des choses qui, politiquement, moi, me posent problème. Et puis, en même temps, j'ai trouvé intéressant de traiter de la question climatique en disant « Mais finalement, la conscience climatique peut être, et elle l'est d'ailleurs déjà aujourd'hui, complètement instrumentalisée. » Et la pénalité écologique est complètement ramenée sur le plan de l'individu. Et ça, on le vit déjà. C'est-à-dire, on vous dit « Ah, mais c'est mal, tu es parti en vacances à Bali en avion », alors que, je ne sais plus, Extinction Rebellion publiait des chiffres hier. C'est 1% de la population qui émet 50% de la pollution aérienne, en fait. Donc, il y a comme ça une espèce de voilement de faits écologiques derrière la responsabilité individuelle qui me semblait intéressant de traiter. Et c'est vraiment le seul point de world building vraiment extensif, on va dire, dans le livre, où j'ai quand même pris un chapitre pour en parler et expliquer un petit peu comment on en était arrivé là et quelles étaient les logiques. Et le déclassement du territoire me semblait intéressant aussi, puisque derrière cette idée de on déclasse un territoire parce qu'on ne peut plus y habiter, du coup c'est bien, comme ça personne ne s'empoisonne à aller vivre sur un territoire mauvais. Et j'essaie d'expliquer, ou en tout cas moi, mon opinion, c'est que quand on fait ça, on déclasse les gens aussi, puisque les gens ne sont pas séparés des territoires, même si ce n'est pas dit aussi frontalement dans le livre. Et puis après, il me semble aussi, et ça j'ai voulu l'explorer autrement, que cette disparition partielle de l'argent amenait tout un rapport différent au travail, qui se fait beaucoup à la mission. Globalement, le monde est plutôt totalement uberisé, fac comprise. Donc, tout ce que ces postulats-là ont amené, ensuite, moi, m'ont beaucoup intéressé, puisque ça créait des situations, ça créait des points de tension particuliers, et notamment les fameux points de tension entre Acha et Zahir, qui n'en sont pas du tout au même point sur la question des points et de l'argent.
Alors, tu dis l'université comprise, il y a une scène de cours absolument extraordinaire. Donc, celle-là, je ne la spoilerai pas, mais s'il y a des profs, des étudiants ou toute curiosité sur l'enseignement, il y a un passage absolument génial là-dessus. Sur l'argent, il y a ce petit passage. Ainsi va la précarité aujourd'hui. Les pauvres, comme de tout temps, n'ont pas d'argent. Mais la notation est une toute autre devise. Ce que vous ne pouvez pas payer en fric, on vous le débitera en points. Avec votre crédit qui chute, c'est tout l'horizon qui se ferme. Les mal notés ne peuvent refuser les relogements, ne peuvent refuser les emplois. Même si cet emploi est un micro-job, une tâche de 10 minutes à l'autre bout de la ville. Même si faire une heure de métro pour aller faire la dite tâche n'a absolument aucun sens en termes économiques. Mais c'est ce qui se passe quand l'argent disparaît, quand le capitalisme apprend, paradoxe suprême, à se passer de lui. Voilà qui résume un peu peut-être cette hypothèse pour notre avenir.
Tu aurais dû lire ça tout de suite, j'ai expliqué pendant 10 minutes, mais...
Non, on sort du texte, on revient dedans, on peut faire dans les deux sens. Ça ne se redouble pas, je crois. Peut-être un dernier point, il y a des milliards de choses à dire tellement c'est passionnant, donc si vous voulez, on peut continuer après. Une dernière chose qui m'a marqué, c'est un détail, mais c'est comme c'est rempli de micro-détails, y compris dans l'univers que tu crées, j'ai été complètement traumatisé par l'invention de ces micromèdes. Qui remplace en fait les grandes fictions. Alors, c'est amusant de voir un monde où il n'y a plus de longues fictions, mais des fictions de quelques secondes. Et alors, moi, j'adore tout ce qui est long. Hein. La durée dans ce livre est nécessaire. Les micromèdes, des fictions courtes, mais potentiellement infinies, grâce à la magie des IA scripts. Tout le monde commence avec le même épisode, mais booste des éléments de la fiction qu'il préfère. Il suffit d'envoyer des pictogrammes ciblés pour matérialiser ses envies. Plus de drama. Plus de blagues, plus de mystères. Pardon, plus de drama, plus de blagues, plus de mystères, plus d'action, moins de dialogue, plus de porn. Vous pouvez demander tout ça. Voilà. Alors, il y a un autre passage qui dit aussi... voilà, il n'y a plus de fiction à raconter parce que toutes les histoires ont été racontées. Et ça, c'est une phrase. C'est écrit dans le livre. Il y a une phrase qui dit, alors, dans le monde fictionnel, il n'y a plus rien à raconter puisque ça y est, tout a été raconté. Alors, c'est une hypothèse. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où il n'y a plus que des micromèdes?
Après, le micromède, c'est paradoxal parce que ça s'appelle micromède parce qu'effectivement, c'est des formes a priori courtes, mais comme tu l'as lu à l'instant, c'est aussi infini. Et moi, ça m'intéressait parce qu'en fait, j'aime bien ça, je crois. Pour moi, c'est un des trucs plutôt chouettes dans ce monde, c'est que ça invente des formes fictionnelles plutôt cool. Alors, toi, tu es malheureux parce que tu aimes les choses longues, mais je crois que ces formes fictionnelles-là, elles sont intéressantes. Et puis, elles sont d'autant plus intéressantes qu'en fait, elles existent en tant qu'elles sont regardées dans la fiction. C'est-à-dire que les gens en parlent, ont des propos sur elles. Il y a une histoire dans l'histoire, en fait, bon, qui n'est pas extrêmement longue, mais qui crée aussi des choses. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi de voir l'avenir des fictions interactives. Alors là, je ne ferai pas un pari aussi ferme que sur l'argent. Puis en plus, on s'en fout, la science-fiction, ce n'est pas fait pour lire dans le marc de café. Mais dans tous les cas, ça m'intéressait d'imaginer des contenus alternatifs et surtout qui sont écrits par des IA. C'est-à-dire quand on va laisser des machines créer des histoires, ce qui a déjà été fait, c'est plutôt assez drôle. Finalement, potentiellement, on peut à chaque embranchement lui dire... voilà, un nouveau trajet fictionnel, adapte-le à mes goûts. Et moi, ça, c'est une idée qui m'excite plutôt, même si, pour le coup, j'ai créé des personnages qui n'aiment pas le dernier micromède à la mode, mais C'est presque un des seuls regrets que j'ai dans ce livre, c'est que j'aurais eu 100 pages de plus, mais on est tous et toutes d'accord qu'il ne fallait pas, mais j'aurais sans doute insisté et développé davantage cette fiction dans la fiction. Des lecteurs lectrices m'ont reproché de ne pas élaborer cette fiction et de dire c'est pas normal, on n'a pas la fin de ce truc ou pas assez, donc il faudrait qu'on en sache plus. Mais après, aussi, un autre point sur ces micromèdes, c'est que ça a été un outil de l'autonomisation des bots, c'est-à-dire que quand ils ont eu accès à ces micromèdes qu'ils créent eux-mêmes, ils ont parlé d'eux-mêmes et de cette façon de leur expérience. Ça a été, c'est pareil, c'est suggéré plus que dit, mais ça leur a permis en fait de s'autonomiser politiquement. Donc c'est important.
Du coup, j'en profite pour te comme tu m'as dit, j'ai déjà imaginé ce roman en film. Je te propose ici, devant témoins, d'en faire une pièce de théâtre longue, autant que le roman ne l'est. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, quelque chose de votre part ?
Je ne sais pas quelle heure il est, je sais pas, on est sur le temps.
On est pile, comme tu m'as dit. J'ai tout géré à la minute.
Que disent les libraires ?
Est-ce qu'il y a des questions ou des... interrogation. Oui.
Bonjour Sol, c'est Véronique. Question de linguiste. Comment tu t'es débrouillée avec les pronoms en français? Donc.
Alors j'imagine que tu veux parler du genre.
Le il, le elle, parce qu'à chaque fois tu es obligée de faire l'alternance là, masculin, féminin.
Oui.
Est-ce que tu as créé des pronoms
Non, en fait, c'était pas mon objet. Et c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, mais Diantre, pourquoi je me suis pas plus intéressée à ça? Mais je crois que parce qu'aussi, je l'ai exploré autrement. Voilà, enfin, avec Irène qui est là, on a fait des ateliers sur la typo inclusive. On a beaucoup réfléchi là-dessus. Et ça fait plusieurs années que je fais tout en inclusive, tout ce qui peut être les documents d'université ou les documents de recherche. Et je devrais pas dire ça, peut-être qu'on me le reprochera, mais en même temps, c'est la vérité, donc allons-y. J'ai voulu faire une petite pause, en fait. J'ai ressenti le besoin de pas m'atteler à quelque chose qui serait intégralement en inclusive. Je le dirai pas devant n'importe qui, mais là, je pense que l'Assemblée est assez safe, donc je vais le dire. Il y a quand même une petite lourdeur de l'inclusive. Voilà, je dis... Oui, non mais complètement.
La créativité en français est très limitée. Donc, est-ce que il y a les néologismes Yale, tout ça, est-ce que tu les utilises pas?
Alors, ponctuellement. En fait, moi, ma règle, ça a été de me dire, je les utilise quand ça me vient. C'est-à-dire quand c'est un phénomène de l'écriture. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire et là, je me dis, ouais, là, je dis Yale, j'ai envie de dire Yale, ça a du sens de dire Yale. Et du coup, je trouve ça intéressant de pas le dire partout. Parce que quand je le dis, ça prend valeur de soulignement ou ça met en valeur que là, véritablement, il y a des hommes et des femmes dans ce collectif. Après, il y a une personne non-binaire, enfin, il y en a même plusieurs, mais il y en a une particulièrement qui est le personnage de Bataz, qui utilise le pronom « yel » et qui se genre au féminin sur les adjectifs. Et d'ailleurs, c'est un sujet dans la fiction. Ce personnage-là est correctement genré. Et là, pour le coup, j'ai utilisé absolument tout le bagage de « et lui » et « lui-même »,« yel ». Enfin, j'ai utilisé tout ce que la langue française actuelle compte de pronoms et de formulations alternatives. Mais j'ai pas utilisé tant l'inclusive sur tout ce qui va être les dénominations de groupes ou les groupes mixtes, voilà, parce que je crois que c'était important pour moi de me dire qu'aussi ce livre-là peut être lu par des gens qui viennent et qui s'intéressent à la science-fiction. C'était autant important de faire un ouvrage pour des gens qui sont rompus aux questions queer, et je pense qu'ils et elles s'y retrouveront. Auront sans doute des choses et des critiques à dire, mais de ne pas fermer le livre et de ne pas le sursigner comme une fiction queer. Mais ce n'est pas forcément un choix avec lequel je suis en permanence tranquille, c'est-à-dire que je relis des passages du livre et je me dis, tout de même, il aurait peut-être fallu, et puis il y a sans doute plein de choses encore à inventer. Après, je pense que ce choix de ma part vient aussi de la longueur de la fiction. Ça a été quand même un long travail, et je me dis, mais... lire ces 590 pages en inclusive continue, parce qu'en plus, il n'y a que des
personnes. C'est pas possible.
Mais ça paraît compliqué. Après, je sais que des auteurs et des autrices le font. Là, je suis en train de lire le roman de Sabrina Calvo. Je trouve qu'elle le fait bien, elle l'amène bien et ça participe complètement de son style.
Il y a
style.
Plein de stratégies. Et après, ça dépend des styles. Voilà, là, c'est une fiction. C'était une vraie question.
Après, je trouve que quand on ne fait pas d'inclusive, ça veut dire que le queer va ailleurs, quoi. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas la forme du texte qui signe le texte queer, mais la queerité.
Moi, j'aime beaucoup le phénomène d'hermaphrodite, de ce qu'on appelle en linguistique, quand j'ai fait mes travaux, c'est-à-dire il y a 20 ans, l'hermaphrodisme linguistique, c'est-à-dire tu mets « il », puis après tu mets « elle ». Il y a des choses assez créatives, malgré tout, en français. Reste sur le binaire, hein, de toute façon. Mais le nouveau pronom que moi, je n'ai pas inclus dans mes tests, mais qui est le « yel », il peut marcher parce qu'il est prononçable.
Oui,
voilà.
Ouais, complètement.
Donc, la langue évolue par la parole. Donc, c'était juste un mini-cours de prof frustré qui a été en Zoom pendant 3 semestres. Merci d'être là. Vive l'université libre et gratuite pour tous. Voilà, je laisse.
Un truc, c'est aussi que si j'ai pas genré de manière, comme tu dis, j'ai pas fait d'hermaphrodisme linguistique, c'est qu'aussi qu'il y a des gens dans ce texte qui sont absolument très sûrs de leur pronom. Enfin, Asha, pour le coup, est une femme trans qui a lutté pour s'affirmer comme femme. Et en tant que bot, ça a été un calvaire. Et, enfin, ça a été compliqué, on le devine. Rose, c'est la même chose. C'est un homme trans qui a galéré avec ça. Donc là, pour le coup, voilà, j'avais pas de volonté d'être dans une variance de genre. Et puis après, bah, y a le personnage de Batas que vous découvrirez, qui, à mon avis, pose de manière intéressante comment on peut être non-binaire à paillettes avec une barbe. Voilà. Il y a les paillettes.
Il fallait pas en mettre partout dans la librairie.
Moi, j'ai une question à te poser par rapport au cinéma. Tu as mentionné le fait d'avoir fait une thèse en cinéma. Donc, après un parcours en design, puis avant de revenir frontalement vers le design, ma question c'est est-ce que le cinématographique a habité l'écriture de ce livre? Alors pas forcément le cinéma de SF au sens voilà, des imaginaires, des types de récits ou de personnages qu'il peut véhiculer, mais vraiment le cinématographique.
Alors la réponse est un grand oui. Mais parce que, alors, je crois que c'est même pas la thèse de cinéma, même si, alors la thèse de cinéma est plutôt une conséquence de ce que je vais dire que le contraire. C'est que moi, je suis née dans les années 80 et j'ai grandi avec la télé, en fait. Et je dis vraiment la télé parce que c'est pas le même rapport que Netflix ou même le cinéma. C'est que j'ai vu plein de films à la télé. Je lisais beaucoup de livres, mais moi, ce qui m'a marqué en termes de narration, c'est vraiment la narration cinématographique hollywoodienne. Et donc, absolument, oui, parce que moi, j'écris, j'ai un film dans la tête. Alors, je sais pas si c'est tous les auteurs et autrices comme ça. Mais moi, c'est absolument sûr que oui, mais presque au plan et au cadrage, en fait. C'est-à-dire que j'imagine cette chose-là filmée. Donc, je suis pas en train de dire, oui, il faut absolument que ça devienne un film. Ce serait probablement très cher et très compliqué. Mais ça, c'en est un, en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait ça parce que je peux pas faire de film, parce que c'est compliqué de faire des films. Donc, c'est un film écrit presque. Alors, je devrais pas le dire, parce qu'on se dit tout de suite, ah, bah, ça va être une forme littéraire faible. Bah, à vous de décider, mais j'ai vraiment ce truc-là. Et c'est aussi là que le cinéma et le design se rencontrent. C'est que quand tu penses en cinéma, tu penses tout de suite aux décors et aux objets. Et de la même manière qu'en design, bah, tu penses tout de suite à avec quels objets, avec quels espaces ça se fait. Et d'où peut-être aussi tous les micro-détails dont tu parlais. Parce que j'ai besoin qu'on voit la scène, quoi. J'ai besoin qu'on voit où ça se passe, dans quelle ambiance, strictement. Tout en essayant aussi de ne pas voler ça aux lecteurs et aux lectrices, quoi. Parce que le but n'est pas de faire un script, enfin vous voyez, c'est pas ça l'idée. Mais oui, complètement, c'est ruiné par Alien, par Total Recall, enfin voilà, enfin.
La description du vaisseau, est-ce que vous l'avez dessiné pour le décrire aussi bien?
Oui, mais mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là aussi où je suis flemmard, c'est que pour que ça fonctionne, j'avais juste besoin de faire un plan. Ce que j'ai fait un plan du vaisseau, mais j'ai honte, je le montrerai jamais. C'est vraiment un croquis affreux, mais qui me permettait juste, moi, de savoir qu'est-ce qu'il y a, quelle distance, où vont les gens, c'est-à-dire de dire bah, quand il va là-bas et de dire c'est à l'ouest, que Kathleen Puteau, il n'y a pas écrit que c'était à l'est. Donc, et à un moment donné, si, je m'étais chauffée parce que il y a eu un moment où je me suis dit, bon, il va falloir que j'ai des supports. Et j'ai cherché un peu, parce que j'adore faire ça, des outils pour m'aider à faire de la création de monde. Donc j'ai cherché 2 trucs. J'ai cherché un logiciel ou une application pour faire de la chronologie. Et je voulais faire aussi une représentation 3D du vaisseau. Et puis en fait, j'ai cherché plein de trucs. J'ai passé une journée à chercher des trucs de jeux vidéo. On pouvait construire son truc tout seul, parce que c'était beaucoup plus simple que de faire une 3D de zéro. Et puis en fait, j'ai pas donné suite. Parce qu'en fait j'ai pas eu besoin, parce que ça se passait très bien juste dans ma tête à visualiser, et puis aussi parce que la chronologie elle par contre m'a pris un temps infini, parce qu'il y a 110 ans d'histoire. Et en fait, c'est ultra compliqué de faire que tout se connecte bien et de dire machin a fait ça en telle année et d'être sûr qu'il n'a pas 200 ans. Quoi. Donc ça a été vraiment un travail colossal. Et il y a quand même ce truc dans l'écriture où... Enfin, moi, un truc qui m'arrivait quand j'allais écrire le week-end, parce que je l'ai fait comme ça, c'est que je commence toujours, je relis ce que j'ai écrit la dernière fois. Et puis, à des moments, je suis là, ah, ok. Je dis, ah, mais il se passe quoi après? Je dis, ah, mais il ne se passe rien, parce que c'est fini. Voilà, maintenant, il faut que j'écrive la suite. Donc, il y a eu aussi ce truc, moi, où j'avais envie de connaître la fin et la suite de mon histoire. Et je crois que j'ai renoncé à me perdre dans un gros projet qui aurait été de faire une 3D du vaisseau, dont, en fait, je n'ai pas eu besoin, enfin, où ça se passait très bien, juste dans ma tête.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais.
C'est juste... je crois que ça ne fonctionne pas du tout, mais... Je m'approche. Ah oui, d'accord, j'entends. C'était juste pour avoir un peu des influences, des trucs comme ça, parce que je vois ce que tu dis... Enfin, quand t'en parles, comme beaucoup de gens, je pense, voir des influences. Maintenant, qu'est-ce qui t'a inspiré dans la SF ou pas? Ça m'intéresse. Voilà.
Bah, je vais faire des réponses super classiques, mais parce qu'on a un peu tous et toutes, je pense, les mêmes références. Je l'ai déjà dit, en fait, Alien, c'est sûr. Mais parce que je trouve que c'est pas que un film d'horreur et de science-fiction, c'est aussi un super film sur la vie de groupe. Et ça, ce truc de la vie de groupe, de l'équipage, ça me passionne. Et pour moi, les scènes de repas, par exemple, dans Alien, sont super intéressantes, et pas juste celles qui se finissent très mal, mais il y a plein de moments d'interaction comme ça que je trouve fascinants et qui, moi, à l'époque, m'avaient donné envie de voir ce qui se passait quand tout se passait bien, en fait. C'est-à-dire, avant que la bête arrive, finalement, quelles étaient leurs relations, comment ils se connectaient entre elles et eux. Et après, je pense qu'après, il y a plein de fictions de robots qui, forcément, m'ont inspiré. Real Humans, c'est sûr, parce que c'est pour moi la fiction qui a le mieux réussi à montrer ce que serait une vie entre humains et robots. Après, j'avais pas une fiction spécifique en tête quand j'ai écrit cette chose-là. Par contre, et ce qui est quand même assez marrant, c'est que l'étincelle, elle est venue pas très longtemps après avoir lu Le Neuromancer de Gibson. Donc, même si ce livre n'a rien à voir avec le Neuromancer, je pense qu'il n'y a pas de lien excessif entre les deux. Mais je trouve intéressant quand même de voir que des fictions comme ça, qui sont très classiques, très reconnues dans le milieu de la SF, qui sont des monstres sacrés, sont tellement bonnes qu'elles arrivent à créer l'étincelle, en fait. C'est-à-dire que, sans que ça m'ait inspiré forcément pour l'univers, c'est le truc où je me suis dit, mais en fait, il faut que j'écrive, sinon, en fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux en faire partie, il faut que je le fasse aussi, en fait. Voilà, donc l'inspiration, elle est peut-être plutôt là.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou veut prendre la parole? Pas d'autres questions? Ah, du coup, il reste un peu de temps pour parler des scènes de cul que je vous conseille, politique. Et personnellement, juste la scène qui m'a le plus excité est une scène entre un Touei.
Mais non, et c'est son prénom.
Hein?
C'est son prénom.
Oui, mais Touei.
Ah oui, bah oui, mais on les appelle pas comme ça, c'est discriminant de les appeler comme ça.
Oui, je le sais, mais on spoil pas tout, t'as dit.
Ok.
Bon, en tout cas, j'ai été absolument fasciné, excité par un personnage bot. C'est bon là?
Ouais.
Je savais que j'allais me faire engueuler un moment. Hein. Pourtant, j'ai bossé. Hein. Donc, il y a en plus des scènes de cul super.
Ça, c'est le truc, l'argument de vente. Du cul, du cul, du cul.
Je veux dire super parce que politique.
Du coup, on a l'impression que c'est lourd. Non.
Ah bah non, attends. Faut savoir ce que tu dis. Merde, il faut que je relise. On est anti-politique, en fait.
Non, c'est politique.
Ah, c'est cool, c'est excitant, le politique. Quand c'est Saul Pondelakis qui l'écrit. Bon. Ça sent la conclue. Eh ben merci beaucoup, Saul.
Bah, merci à vous d'être venus si nombreuses et nombreux. Ça me touche énormément.
J'espère que vous avez passé un bon moment.
Radio Livre de